Un des avantages du design pattern MVVM, modèle, vue, vue modèle, est de chercher à se débarrasser complètement de ce glue code.
Prendre en main le design pattern MWM.
Pour pouvoir aborder sereinement le design pattern MVVM avec WPF, Windows Presentation Foundation, nous allons tout d'abord nous intéresser à la notion de data context.
Je vous propose ainsi d'ouvrir Visual Studio et de créer un nouveau projet.
Une fenêtre Nouveau projet s'ouvre.
WPF. Je vais nommer ce projet Première utilisation.
Dans le champ Nom.
D'un data context. Nous allons tout de suite commencer par créer une classe Client.
Dans XAML.
Qui contiendra les informations d'un des clients de notre société. Ainsi, faites clic droit sur votre projet.
Un menu apparaît.
Ajouter.
Un nouveau menu.
Classe.
Fenêtre, ajouter un nouvel élément.
Et créons la classe.
Champ nom au bas de la fenêtre.
Client.cs.
Ouverture de client.cs.
Rendons cette classe publique.
Le professeur écrit public devant classe client.
Et définissons quelques propriétés pour ce client. Par exemple, un nom, un âge, un sexe.
Retour à la ligne, il écrit private espace string espace name point virgule. Nouveau retour à la ligne private espace string espace prénom point virgule. Retour à la ligne encore, puis private espace string espace sexe point virgule. Et enfin, dernier retour à la ligne pour private espace int espace age point virgule.
Créons des accesseurs nous permettant d'accéder et de modifier ses propriétés depuis l'extérieur.
Le professeur sélectionne « Nom » sur la première ligne. Un menu propose « Encapsuler le champ « Nom ». Il clique sur cette option et fait de même pour « Prénom »,« Sexe » et « Âge ».
Et voilà. Admettons que je souhaite représenter dans ma fenêtre une interface d'édition ainsi qu'une interface de visualisation de ma fiche client. Je vais donc réaliser très rapidement une petite interface me permettant d'avoir ces deux types de visualisation affichés sur ma fenêtre. Je vais utiliser le composant grid pour faire ça. J'ai séparé ici, à l'aide d'une grille, mon interface en deux parties, une interface d'édition de ma fiche client et une interface de visualisation de ma fiche client.
Sur l'interface XAML.
J'ai défini très rapidement des styles par défaut pour les objets de type label ou textbox, pour spécifier principalement l'alignement horizontal et vertical du texte qu'ils contiennent.
La fiche client s'exprime dans la main window.
J'ai défini une grille comportant 5 lignes, 1, 2, 3, 4 et 5, et 5 colonnes, en n'oubliant pas la colonne de séparation au milieu. Et ensuite, j'ai disposé mes éléments en spécifiant les coordonnées de ces derniers sur la grille à l'aide des propriétés héritées grid.row, grid.column, et, quand nécessaire, grid.colonspan ou grid.rowspan me permettant d'avoir des éléments graphiques s'étalant sur plusieurs cellules de ma grille. Pour réaliser cette interface très très simple, j'ai principalement utilisé des labels, des textbox, ainsi que un rectangle me permettant de faire une séparation verticale au milieu.
La ligne verticale distingue l'interface d'édition contenant nom, prénom, âge, sexe de la fiche client.
Maintenant que nous avons cette interface simplifiée, il serait bon de lui permettre de manipuler une fiche client. Autrement dit, nous avons besoin de lui spécifier un data context. Le data context d'un élément visuel est l'objet sur lequel nous allons poser des bindings, des liaisons, dans le but d'afficher les données de ce data context. Ainsi, pour spécifier le data context de cette fenêtre, rien de plus simple, il suffit d'écrire window.dataContext. Nous allons créer ici un objet de type client. Donc nous allons écrire local.client.
Sous window.dataContext.
Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à nous binder aux propriétés de cet objet client dans nos différents labels et textbox. Je viens donc de réaliser des bindings sur les propriétés nom, prénom, âge et sexe de notre client, représentant notre data context. et des bindings unidirectionnels pour les labels de la fiche client. En effet, ces derniers ne sont pas éditables.
Dans l'interface et la fiche apparaissent l'âge et le sexe de Pierre Dupont.
Et voilà, vous pouvez donc ici constater que le data binding a l'air de fonctionner. Attention cependant, ici, même si le data binding a l'air de fonctionner, tout n'est pas complet. En effet, admettons que nous souhaitions proposer dans cette interface un bouton reset nous permettant de mettre à zéro les propriétés d'une fiche client. Je rajoute donc une ligne à ma grille sur laquelle je déploie tout un bouton sur les 5 colonnes.
Une ligne grisée nommée RAZ s'affiche au bas de la grille.
J'ai laissé Visual Studio me générer une méthode buttonClick qui sera appelée quand je cliquerai sur mon bouton, qui mettra à zéro toutes les propriétés de mon client. Son âge à zéro et qui laissera un champ vide pour chacune de ses autres propriétés. Ici va survenir un problème lorsque je vais lancer mon application.
Le professeur intervient dans l'interface d'édition de Main Window.
En effet, bien que le data binding ait l'air de fonctionner, lorsque je clique sur mon bouton, rien ne se passe.
Il clique sur la ligne RAZ puis ferme la fenêtre Main Window.
En effet, pour que les propriétés puissent être mises à jour par le biais du data binding, il est nécessaire que lors de la modification de ces propriétés, nous déclenchions un événement approprié indiquant à notre vue de se mettre à jour. Retournons donc dans notre classe client.
Interface client.cs, ligne publique, espace classe, espace client.
Nous allons commencer par implémenter l'interface iNotifyPropertyChanged.
Il ajoute deux points à la suite de public classe client et écrit.
N'oubliez pas d'ajouter comme using system.componentModel
qu'il choisit dans un menu.
Et enfin, d'implémenter cette interface.
Choix dans le menu haut.
Cela nous crée un événement dont le type de délégué est PropertyChangeEventHandler nommé PropertyChange. Nous allons devoir déclencher cet élément à chaque fois que nous modifions la valeur d'une propriété. Ainsi, dans tous nos accesseurs où nous cherchons à mettre à jour la valeur d'une propriété, nous allons écrire le bout de code suivant.
Au-dessus de la valeur nom.
Si la valeur que nous souhaitons mettre à jour est différente de la valeur de mon champ, alors nous mettons la valeur du champ à jour. Et pour peu qu'il y ait une méthode abonnée à l'événement PropertyChange, nous pouvons le tester à l'aide de la comparaison à nul.
Sous la valeur nom.
Nous déclenchons l'événement PropertyChange en lui passant en paramètre notre objet ainsi qu'un PropertyChangedEventArgs prenant en paramètre le nom de la propriété modifiée.
Nom entre parenthèses, entre guillemets, fermez la parenthèse, point virgule.
Voyez ici, mon accesseur me permet de mettre à jour la valeur de mon champ et d'informer tous ceux abonnés à PropertyChange qu'il y a eu un changement effectif sur la valeur de cette propriété. Je duplique ce pattern sur mes autres propriétés.
Duplication sur prénom, âge et sexe.
Et lorsque je relance mon application,
ouverture de la fenêtre Main Window.
Ce coup-ci, l'appui sur le bouton RAZ fonctionne bien tel que prévu. Nous avons réussi ici à séparer les données de notre interface. Cependant, nous ne sommes pas dans une séparation 3 tiers parfaite. En effet, nous avons exécuté du code métier à l'intérieur de la classe représentant notre vue, ce qui n'est pas souhaitable. Je vous invite à me rejoindre dans la prochaine vidéo pour voir ensemble la notion de commande et réaliser proprement cette séparation.
Un ovoïde bleu ciel vient se superposer à un premier bleu foncé dans lequel s'inscrivent en lettres blanches le groupe S2I. En petits carrés de mosaïque brun, rouge, orange et or, le logo OC s'affiche à l'écran pour annoncer Open Classrooms.